Bonjour. Donc Nadine Patry m'avait dit qu'il fallait que je me présente, mais ça vient d'être fait. Donc l'origine de ma formation, c'est la philosophie. Je me suis intéressé, ou je m'intéresse à des questions qui touchent à la façon dont, je dirais, la sensibilité est impliquée dans et par la technique. Moi, j'ai écrit des ouvrages plutôt philosophiques et je me suis intéressé en particulier au Bauhaus. Donc, j'ai fait un livre qui s'appelle Art et Industrie et qui est une lecture philosophique des problèmes que le Bauhaus a soulevés. Voilà. J'ai intitulé mon intervention de ce matin Le devenir authentique des techniques d'image. Et en fait, ce qui m'intéresse de marquer, en prenant pas mal de recul, vous allez voir. D'une certaine manière en tout cas. Ce qui m'intéresse de marquer, c'est cette expression-là, le devenir authentique. C'est-à-dire que l'authenticité n'est pas, me semble-t-il, quelque chose qui est une donnée immédiate, mais quelque chose qui se produit à la suite de toute une série de travaux et de ce que j'ai appelé, dans le petit texte que j'ai adressé, l'installation dans la culture. Je me propose de vous... si vous voulez, de monter un petit raisonnement en trois temps, d'inégale longueur. Le premier sera le plus long, et pour finir facilement, le troisième sera le plus court. Voilà. Alors le premier temps, le voici. Je me disposais, je travaille en marchant beaucoup, je laisse venir les idées comme ça, et c'est la phase de maturation, et cette phase de maturation s'achevait pour l'exposé que je préparais ce matin, lorsque j'ai lu, mon attention a été attirée par un article publié par le journal Libération daté du 11 et 12 septembre dernier. Et cet article était consacré aux énergies du 21e siècle, c'était le titre, ou solaire en particulier. Alors je crois que c'est le travail d'une de mes étudiantes de l'an passé qui était un travail consacré à l'architecture des champs d'éoliennes, qui m'a guidé d'abord vers les photographies les plus évidentes, les plus immédiatement perceptibles dans l'article. Ces photographies accompagnaient l'exposé du journaliste François Musso, que je vais citer dans quelques secondes. Alors je me suis en particulier arrêté sur l'image que je vais vous montrer, je ne crois pas très très bien reproduite, mais enfin peu importe, ça suffira. Voilà, on ne voit pas très bien, mais peu importe. Bon, enfin, voilà, il s'agit d'un projet expérimental concernant les industries, les techniques industrielles ou industrialisables du solaire de l'avenir. Alors, à lire l'article de François Musso, l'image que vous avez approximativement sous les yeux se comprend de la manière suivante. Je cite « La pièce maîtresse, écrit le journaliste, est un cube jaune en céramique, pas plus grand qu'une armoire. Placé au haut d'une tour en ciment d'une hauteur de 80 mètres, c'est une chaudière ultramoderne qui reçoit les rayons réfléchis par des miroirs solaires répartis sur une surface de 12 000 mètres carrés, des héliostats qui suivent la course du soleil selon un programme informatique surveillé depuis la salle de contrôle située au sous-sol. Ce capteur thermique, où la température atteint les 1000 degrés Celsius, fonctionne comme une sorte de gruyère. Un air brûlant y passe avant de pénétrer dans un échangeur de chaleur qui génère une vapeur suffisante pour actionner une turbine classique productrice d'électricité. À côté, un réservoir stocke l'énergie accumulée sous forme de chaleur sensible. Il permet de poursuivre l'opération pendant 9 heures après le crépuscule. Fin de citation. Alors, au-delà du choix, sur lequel, à mon avis, il y aurait beaucoup à dire, d'installer au sous-sol, comme vous l'avez entendu dans ma lecture, c'est-à-dire invisible, les dispositifs de surveillance, donc au-delà de ce choix, ce qui me frappe dans toute cette affaire, c'est, pour une large part, l'absence d'architecture au sens premier du terme. Alors, l'architecture, moi je prends le mot comme j'ai appris à le lire chez les premiers philosophes de la tradition dite occidentale, à savoir Platon et Aristote, qui, lorsqu'ils utilisent le mot, évidemment, le prennent avec le sens qu'il a dans la langue grecque qui est la leur, et que je vais vous faire entendre très très rapidement en rappelant ce que ce mot signifie étymologiquement. Architecture doit se lire comme ça, et tecture renvoie au toit, hein, c'est-à-dire au travail des charpentiers, et ce qui fait en dernier dans la construction d'un bâtiment. Et l'archi, hein, c'est l'archaïque, c'est le fait que l'ultime geste, le toit, la construction du toit, est déjà archivée dans un plan, un graphé, disait la langue grecque, un graphique, un plan, un dessin, d'avance. C'est planifié, si vous voulez, écrit d'avance, graphié d'avance, et c'est ça qui fait l'architecture. Autrement dit, l'architecture, étymologiquement, consiste à élaborer dans une archive préalable ce qui pourra être effectivement construit et réalisé. Alors il me semble que dans le dispositif qu'on a sous les yeux et dans la réception qui en est faite aujourd'hui, en tout cas par exemple dans la presse, il n'y a pas à proprement parler d'architecture. Et c'est ça qui me frappe. Et c'est ça que je voudrais un tout petit peu méditer avec vous, si vous voulez bien, pendant quelques minutes. Il n'y a pas de dessin EUN organisateur dans cette affaire. Il y a plutôt, me semble-t-il, un bricolage où le contraste entre la petite chaudière ultramoderne, hein, je vous ai lu l'article tout à l'heure, la petite chaudière ultramoderne, pas plus grande qu'une armoire, disait le journaliste, le contraste entre cette petite chaudière ultramoderne, c'est là qu'est la modernité, hein, semble-t-il, et la tour de 80 mètres, sans laquelle l'énergie réfléchie par les capteurs ne pourrait pas être concentrée. Ce contraste me semble extrêmement intéressant. C'est ce bricolage qui, certes, est doté d'une certaine beauté. Il me semble que l'opposition de la tour au capteur n'est pas sans allure, même si ma reproduction ne le fait guère voir. Ce bricolage, donc, doté d'une certaine beauté, c'est lui qui serait appelé à dessiner le paysage des centrales solaires si ce modèle devait être validé économiquement, ce qui est possible. Ici déjà, ce bricolage trace l'espace, structure un paysage et déjà détermine des usages. Par exemple, des distances de communication entre les endroits où les humains travaillent, surveillent, et où les machines travaillent. À ce niveau, du reste, un problème est d'ores et déjà perceptible. C'est l'immensité de l'ensemble du dispositif. Immense, ça veut dire qui ne tient pas dans des mesures. Le problème perceptible, c'est l'immensité de l'ensemble du dispositif, ce sont les infrastructures nécessaires en termes de communication. L'option retenue, dit encore l'article de Libération, est, je cite, « dévoreuse d'espace ». Alors, j'ai perdu le... Non, elle est là. Voilà, bon, la photo est pas meilleure, mais bon, il y avait une vue de l'ensemble du site. Cette dévoration de l'espace, qui donc c'est les 12 000 mètres carrés entre autres, cette dévoration de l'espace fait pour moi écho à l'histoire de la sidérurgie, qui longtemps a beaucoup exigé en termes d'environnement et en termes d'espace. On ne pouvait produire de l'acier sans un grand étalement de dispositifs productifs reliés entre eux, de fait, plus par des bricolages que par une véritable architecture. Il fallait, par exemple, joindre les mines aux hauts fourneaux, puis les hauts fourneaux aux aciéries, et souvent encore, les aciéries aux usines de profilage, tantôt des tréfileries, tantôt des trains à pale-planche, tantôt des presses à acier plat, etc. Ce système de liaison entre sites productifs, dévoreurs d'espace, lui aussi, ce système a connu sa fin dans nos régions avec la généralisation dans les années 60-70 de la coulée continue, procédé qui conduisait à traiter l'espace de production en des termes très différents de la tradition, la grande tradition industrielle de la sidérurgie, en tout cas en France. D'une certaine manière, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que la sidérurgie est devenue une technique autonome au moment du passage à la coulée continue. C'est à ce moment-là que la sidérurgie, c'est ça que je veux dire, c'est à ce moment-là que la sidérurgie est devenue une technique autonome et, comme on n'a pas tardé à le voir, de ce fait délocalisable. Elle n'était plus dépendante, ou elle l'était beaucoup moins, de données environnementales strictes. Je dirais aussi bien, et c'est justement là où je voulais en venir, qu'elle a passé, à ce moment-là, un seuil de perfection. Mais je voudrais faire peser le mot « perfection », qui, dans son étymologie latine, signifie « traverser complètement », « passer à travers »,« aller au bout ». Donc, selon l'étymologie du mot et selon l'usage philosophique de ce mot, dire que la sidérurgie, par exemple, a passé un seuil de perfection, cela veut dire qu'elle a traversé son histoire, qu'elle s'est achevée, qu'elle s'est accomplie. Et c'est sur cette question que je voudrais nous inviter, si vous permettez, à réfléchir. Qu'est-ce qui accomplit une technique? Qu'est-ce qui parfait? Qu'est-ce qui achève une invention? Voilà, ça c'est le problème. C'était mon premier point. Alors voici le second. Donc je vais faire quelques remarques sur cette question de l'accomplissement d'une technique, ou de sa perfection, ou son passage au seuil de perfection. Personnellement, mes travaux m'ont... Personnellement, mes travaux m'ont plus particulièrement amené à réfléchir sur des questions de contemporanéité. Le contemporain, pour moi, n'est pas exactement l'actuel. Le contemporain désigne plutôt, comme le mot lui-même le dit, hein, contemporain, du même temps. Le mot désigne plutôt, me semble-t-il, ou devrait désigner plutôt, si on en faisait un usage strict, en le distinguant de l'actuel, je vais vous dire pourquoi dans deux secondes. Le mot désigne plutôt une coexistence de choses ou de comportements qui ne datent pas nécessairement du même moment quant à leur apparition, mais qui se retrouvent néanmoins ensemble dans une époque. Donc ça veut dire par exemple assez simplement que nous vivons aujourd'hui avec des objets dont les inventions ou les procédés, ce qui revient finalement au même, hein, dont les fondements ne sont pas exactement du même moment. Et bien pourtant, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Nous sommes contemporains de ces divergences historiques, en réalité. Donc, tout ce qui fait notre temps, tout ce qui va avec notre temps, tout ce qui nous est contemporain, n'est pas de la même actualité. Dans le cas de la centrale solaire, dont je viens de parler il y a quelques minutes, il y a à l'évidence des éléments de ce type. Il y a un mélange d'objets plus ou moins nouveau, plus ou moins actuel. Il y a quelque chose de contemporain, au sens que je viens d'essayer de définir. Pour ma part, la question de contemporanéité qui m'a particulièrement retenu dans un certain nombre de mes travaux concernait en première apparence les arts. Je me suis demandé notamment comment la peinture, art et technique majeure de l'image jusqu'à l'invention de la photographie, 1839. Comment la peinture, donc, art et technique majeure de l'image jusque-là, avait pu devenir contemporaine de la photographie? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Comment la peinture a pu devenir contemporaine de la photographie? Alors, sans doute ne m'appartient-il pas, ça serait un peu indécent, de commenter moi-même la précision de la formule, de la phrase que je viens d'utiliser, vu que je suis l'auteur de cette phrase. Mais je voudrais quand même un tout petit peu insister sur le fait que je viens d'employer une phrase d'une complexité mesurée, calculée. En général, on pense les choses dans l'autre sens. En général, on cherche plutôt à savoir comment une invention est devenue possible et donc contemporaine de ce qu'il y avait avant elle. Eh bien, remarquez que je pose ma question en sens inverse. Je dis que c'est à la peinture qu'il a fallu, au XIXe siècle, devenir contemporaine de la photographie. Certes, comme nous allons le voir, cette dernière, la photographie, n'est pas demeurée constante dans sa propre capacité de production. Et il nous reste de toute cette histoire divers genres photographiques, cette diversité touchant elle-même aussi bien à l'esthétique de l'image qu'au mode de sa diffusion. Mais enfin, c'est en regardant d'abord, me semble-t-il, les déplacements de la peinture qu'on comprend mieux l'ampleur du processus qu'a été l'invention de la photographie. C'est cet art, la peinture, d'abord, qui a été touché. Et c'est à lui que très vite, une redéfinition a été imposée. À cela, il y a, me semble-t-il, deux raisons. La première raison vient de ce que la nouvelle invention, elle-même au départ bricolage au succès inattendu, hein, parce que je rappelle que d'abord ils étaient plusieurs inventeurs, et qu'ensuite l'un d'eux, Niepce en particulier, n'attendait pas du tout ce qu'il a eu sous les yeux, par exemple il pensait qu'il aurait des images en couleur. Donc la première raison vient de ce que la photographie, la nouvelle invention, elle-même bricolage au départ au succès inattendu, remettait en cause des savoir-faire, elle remettait en cause un métier, celui de peintre, elle remettait en cause un marché, celui de la peinture. Disons que cette invention, la photographie, créait une situation de concurrence tout en impliquant une rupture technique. Disons qu'on devenait capable de réaliser la même chose, des portraits, des paysages, des figures du monde en général, mais autrement. Ça, c'est la première raison qui a imposé une redéfinition à la peinture. La seconde raison tient à ce que, dans cette situation de remise en cause, l'avantage économique allait indéniablement du côté de la nouveauté, du côté de la nouveauté technique. Là se trouvait, pour autant qu'il s'agissait de jouer la concurrence, c'est-à-dire de viser le même genre de production et le même genre d'usage, là se trouvait le gain de temps productif qui permet, dans un système concurrentiel, d'économiser sur la dépense et de se retrouver en situation de profit supérieur, donc en situation avantageuse du point de vue économique. D'une certaine manière, la peinture, en tant que métier, ne s'est pas remise de cette concurrence. C'est pourquoi j'ai dit à l'instant qu'elle s'est déplacée. Il est probable que bien qu'elle ne se soit pas remise en tant que métier de cette concurrence, elle ait gagné en authenticité esthétique ce qu'elle a perdu par conséquent en puissance et en service social. Bref, déchargée d'avoir à servir, elle s'est faite la peinture rare et précieuse. Et du coup, elle a ouvert d'autres champs d'expérience. Pour la photographie maintenant, quel a été le problème? En 1931, un remarquable penseur de l'époque, de notre époque, qui était alors Walter Benjamin, évoquait dans sa petite histoire de la photographie l'idée d'un déclin précoce, je cite quasiment en substance, c'est pas une exacte citation, mais c'est en substance, un déclin précoce de cette technique en tant qu'art. Voilà ce qu'il dit de la photographie. En se retournant sur sa courte histoire. Le texte est de 1931, donc l'invention 1839, ça fait un petit siècle. Et donc, dans ce petit siècle, Walter Benjamin dit « La photographie a connu un déclin, par conséquent un déclin précoce en tant qu'art. » Comment comprendre cette idée paradoxale? Comment un déclin peut-il être précoce? Dans l'hypothèse de Benjamin, la clé de l'énigme tient, me semble-t-il, à la distinction qu'il fait entre art et technique. Cette distinction signifie, vous me pardonnerez, je l'espère, de ne pouvoir vous donner dans un premier temps qu'un énoncé qui va appeler une clarification, une explication. Cette distinction signifie que les conditions qui permettent à une technique de s'avérer socialement ne sont pas celles qui lui permettent de s'avérer en tant que telle, c'est-à-dire authentiquement. C'est la thèse de mon intervention. En d'autres termes, qui ne sont pas encore nécessairement tout à fait clairs, je vais essayer de faire mieux dans quelques minutes. Donc, en d'autres termes qui vont faire écho d'ailleurs à mon propos introductif, les usages d'une invention précèdent son accomplissement. Pour m'exprimer précisément, je dirais qu'une technique peut être employée avant même d'être parfaitement avérée. S'agissant de la photographie, ce propos se traduirait ainsi : la photographie n'avait pas donné ce qu'elle pouvait, ou plus exactement, la photographie n'avait pas donné ce qu'elle pouvait exactement ou authentiquement, que déjà elle était en vigueur. Et il faudrait entendre le mot vigueur pour ce qu'il veut dire, elle était vigoureuse. La photographie dans son moment vigoureux n'était pas la photographie dans son authenticité. Depuis ma lecture de Walter Benjamin, lecture qui n'est peut-être pas tout à fait orthodoxe aux yeux des spécialistes, je pense qu'il existe, pour une même technique, diverses conduites. Parmi elles, dans certains cas du moins, pour certaines techniques, je veux dire, parmi les conduites, il y a l'art. Il y a une conduite artistique d'une technique lorsque celle-ci est avérée dans sa puissance propre, c'est-à-dire lorsqu'elle donne ce qu'elle seule peut donner. Au bout du compte, une fois avérée la photographie comme telle, nous voyons bien qu'une image photographique ne vaut pas une image picturale. Qu'elle vaille moins en termes d'échange, c'est ce que l'on a su tout de suite dans l'histoire de la photographie, lors de son essor économique. Si elle avait représenté une valeur d'échange supérieure à l'image picturale, elle n'aurait pas gagné dans sa concurrence avec la peinture. Donc elle valait moins en termes d'échange. Qu'elle ait une autre valeur d'usage, qu'elle ne produise pas les mêmes effets d'usage, notez bien que j'établis ici seulement une différence et non pas une comparaison. Donc qu'elle ait une autre valeur d'usage, elle avait une moindre valeur d'échange, mais une autre valeur d'usage. Donc, quelle est une autre valeur d'usage ? C'est ce qu'il a fallu découvrir au-delà de ce déclin artistique précoce de la photographie. C'est ce qui est apparu à partir du moment où des artistes, sortant la nouvelle technique de son emploi dans le système de la concurrence, ont avéré. Ces artistes ont permis l'authentification culturelle de la photographie en montrant ce qui pouvait être montré avec elle et avec elle seulement. Alors je ne peux pas ici, bien entendu, où il ne me revient pas de faire un, je sais pas comment dire ça, une leçon d'esthétique ou une analyse de type esthétique, je ne peux pas ici vous montrer à quoi tout cela se voit et à quoi tout cela s'est vu. Mais je peux peut-être suggérer une sorte de règle, mettons une hypothèse, où se trouvent mis en correspondance les phénomènes institutionnels et les phénomènes esthétiques. Dans l'histoire que je viens d'évoquer, tout s'est passé comme si la photographie avait d'abord conquis un marché qui était d'abord occupé par la peinture. Vous noterez les connotations de ces mots. Conquête, occupation. Au-delà, voyez ce qui se passe, ou voyez ce qui s'est passé. Dans sa phase conquérante, donc au sens propre du mot, dans son moment d'institution, dans sa phase conquérante, dans son moment d'installation, si vous voulez, dans son moment d'institution, la photographie était originale techniquement, mais elle ne l'était pas esthétiquement. Esthétiquement, en effet, elle était à ce moment-là imitative. Elle donnait, en moins coûteuse, des images de même type que la peinture. C'est ensuite seulement que l'esthétique photographique s'est avérée. Et c'est ensuite seulement, par la même occasion, qu'une culture de la photographie, ou même une culture faisant place authentiquement à la photographie, a pu se développer. Sans doute faudrait-il, là encore, que je précise la façon dont je parle. La culture est pour moi fondamentalement un processus de valorisation, c'est-à-dire de préférence. Alors, il faut que je commande un tout petit peu la façon dont j'utilise ce mot. Je renvoie, comme je fais souvent, les mots à leur sens premier, et culture vient du latin, d'un verbe latin colere, hein, qui dans l'une de ses formes conjuguées, donne cultum, d'où vient d'ailleurs culte, aussi bien que culture. Et l'un des sens de ce mot colere, c'est jardiner, cultiver, jardiner. C'est-à-dire en fait trier, discriminer, séparer les bonnes et les mauvaises herbes. Donc, si vous voulez, établir du bien ou du satisfaisant et du pas bien, du mauvais. Bon, si vous réfléchissez un tout petit peu, on n'aura pas le temps d'aller au fond de ce type de problème, mais vous comprendrez, je crois, assez rapidement qu'il n'y a, de valeur que relative. C'est-à-dire que vous ne pouvez définir une bonne herbe que parce que vous la distinguez d'une mauvaise. Et donc, les systèmes de valeurs sont toujours des systèmes relatifs. Donc, mettons que j'ai emprunté ça à une lecture de Nietzsche. Et donc, si la culture, c'est un système de valeurs, il ne peut y avoir de système de valeurs vivant qui ne tombe pas, par conséquent, dans son propre culte, mais qui soit bien une culture vivante, que si il continue à exister. C'est pour ça que je parle de préférence, la possibilité de préférer, hein, c'est-à-dire de trier, ceci oui, ceci non, mais pour que je puisse dire ceci non, il faut qu'il y ait un ceci auquel je peux dire non. Et par conséquent, il faut qu'il y ait de la différence dans la culture. Il n'y a pas de culture vive qui n'implique de préférence, et il n'est pas possible de préférer si on a affaire qu'à un seul type de produit. Donc, on ne peut préférer que si il y a de la différence. Pour qu'une culture vive, par conséquent, il faut des différences. Alors, ce qu'on préférera, c'est ce qu'on majorera, et ce qu'on éliminera, c'est ce qu'on minorera. Mais il faut qu'il y ait du mineur. Ainsi, l'établissement d'une différence entre, par exemple, l'image picturale et l'image photographique, établissement qui fut l'une des affaires du XXe siècle, est-il ce qui, en instaurant les conditions d'un débat esthétique, a permis de faire vivre la culture de l'image ? Mais vous voyez bien en tout cela trois moments fort distincts. Le moment économique de l'installation, le moment artistique de l'authentification et le moment culturel de la valorisation symbolique. À mon sens, les deux derniers moments, l'esthétique et le culturel, n'empêchent pas le marché de subsister. Dans une certaine mesure même, ils le consolident. En tout cas, les conditions du profit sont, à partir du moment où il y a le moment esthétique et le moment culturel, les conditions du marché sont stabilisées. Auparavant, on est dans la phase de la conquête et de la prise de territoire. Mais sans doute, tous ces moments, ces deux derniers moments, celui de la consolidation, si vous voulez, esthétique et culturelle, ces deux derniers moments ne sont pas contemporains de la phase conquérante. Voilà. Alors je vais passer au troisième et rapide dernier temps de mon exposé, c'est-à-dire essayer de tirer une petite conclusion de ce propos général. Ce que je viens de dire justifie à mes yeux l'idée d'une recherche artistique articulée au progrès de certaines techniques sur le marché, en particulier le marché des images. Dans mon schéma, une telle recherche artistique, sans être secondaire, je la crois au contraire tout à fait essentielle, donc elle n'est pas secondaire, mais néanmoins elle est seconde, et c'est ça l'idée principale de ce que je veux marquer ce matin. C'est que peut-être que ce qui nous est essentiel n'est pas nécessairement ce qui nous arrive en premier lieu dans l'histoire d'une technique. Donc la recherche artistique qui va avérer l'authenticité d'une technique, en tout cas dans le cas des images, sans être secondaire, néanmoins est seconde. Son enjeu, qui est donc non secondaire mais second, lui aussi par voie de conséquence, son enjeu est la vie de la culture, c'est-à-dire la capacité de la culture à échapper à la morne célébration des valeurs déjà acquises ou, au contraire, sa capacité, si jamais la première ne s'avérait pas, à s'éteindre dans sa propre ritualisation et dans sa propre imitation. que cet enjeu nullement secondaire puisse être pensé comme second signifie que les institutions capables de valoriser une invention ne se produisent pas elles-mêmes en même temps que cette invention. Ainsi, fût-ce avec décalage que toute une photographie de l'instant aujourd'hui en passe elle-même de se ritualiser sous l'effet d'un nouveau mode très concurrentiel de la facture des images, le numérique. Ainsi donc, c'est ainsi que toute cette photographie de l'instant a pu trouver avec la presse l'institution spécifique apte à la valoriser. Mais cette institution n'était pas tout de suite là au moment de l'invention de la photographie. Alors je n'ai pas démontré ici une loi historique, mais peut-être ai-je au moins montré l'existence d'une condition possible de l'avancée des techniques dans le monde. Là aussi je pèse ma formule, l'avancée des techniques dans le monde, comment ça peut avancer parmi nous. Donc je n'ai pas démontré de loi historique, mais peut-être l'existence d'une condition possible de l'avancée des techniques dans le monde, condition encore plus prégnante sans doute si le symbolique est en jeu, puisqu'alors en effet il est bien difficile de comprendre le processus en le réduisant à sa dimension marchande, et c'est bien le cas avec les images. Selon cette condition, il vient un moment critique, il vient toujours un moment critique, critique hein, par la force des choses, puisqu'il n'y a pas de culture vive sans le moment critique. Selon cette condition, il vient un moment critique où le devenir de l'invention échappe aux modalités établies de la consommation. Modalités établies de la consommation qui ont précisément installé dans le marché l'invention en question. Ce moment critique est encore une fois, paradoxalement, ce moment second, est pourtant celui où s'établit authentiquement la nouveauté. C'est donc aussi bien dans le second temps que le neuf apparaît véritablement comme tel. Et à ce moment-là, il apparaît, évidemment, puisqu'il est neuf, surprenant, inhabituel pour toutes les instances de la vie, pour toutes les structures de l'échange, d'une manière générale, pour toutes les habitudes. Alors, je vais m'arrêter là. Bon, c'était l'idée générale que je voulais essayer de dénoncer. Et j'aurais tendance à penser que ce qui est en question avec le numérique en ce moment, c'est ça. Il me semble qu'on arrive au moment second, au moment de son authentification, et que cette authentification ne pourra pas se faire dans les formes esthétiques des arts déjà existants. Voilà, je vous remercie.